Il est 7h et voici le journal de Catherine Dutube. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Les campagnes de vaccination massive contre le Covid ne suffiront pas à garantir une immunité collective cette année. C'est la mise en garde de l'OMS. En France, le gouvernement s'inquiète face aux variants britanniques du virus, aux conséquences visibles dès cette semaine peut-être des fêtes de fin d'année sur la circulation du Covid. Peut-on éviter un troisième confinement? La question hante Jean Castex, vous l'entendrez.
La pandémie, synonyme de vie sociale à l'arrêt pour les étudiants notamment, des cours à distance et un malaise grandissant. La situation se tend un peu plus après la tentative de suicide d'un étudiant à Lyon.
La pandémie, lourde de conséquences pour la recherche universitaire, difficulté d'accès aux laboratoires et aux bibliothèques, comment mieux collaborer malgré la distance? L'OCDE propose des solutions dans un rapport que France Culture vous dévoile en avant-première ce matin.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, pourquoi l'affaire Duhamel plonge-t-elle Sciences Po dans la tourmente? Je poserai la question à Jérôme Le Fillâtre, il est grand reporter à Libération.
Un peu plus de 138 000 personnes ont déjà été vaccinées en France. Les autorités visent toujours l'objectif de 15 millions de personnes protégées d'ici l'été, soit un quart de la population. Et à l'échelle mondiale, quoi qu'il arrive, nous n'atteindrons pas les 60% de la population vaccinée, synonyme d'immunité collective qui arrêterait la circulation du virus. C'est ce qu'explique l'OMS ce matin. Et le gouvernement français prend cette alerte très au sérieux, alors que près de 29 000 personnes sont hospitalisées en ce moment à cause du Covid. Jean Castex espère encore pouvoir éviter un troisième confinement. Le Premier ministre l'a expliqué hier au chef des groupes parlementaires, Stéphane Robert.
À ce stade, le couvre-feu suffit, a dit Jean Castex hier au patron de groupes parlementaires réunis en visioconférence. Le Premier ministre leur a expliqué qu'il allait privilégier de nouvelles extensions du couvre-feu à partir de 18h, si nécessaire, en fonction des départements. Mais que pour le moment, son souhait était d'éviter, autant que faire se peut, d'imposer aux Français un troisième confinement. Et surtout, a-t-il ajouté, il veut à tout prix éviter de confiner les enfants et de fermer les écoles. Je l'ai tout de même senti très inquiet, avoue un participant à la réunion d'hier. On voyait qu'il essayait de nous rassurer, ajoute-t-il, mais il avait du mal à dissimuler son inquiétude. Et ce que craint le chef du gouvernement, ce sont deux choses. Premièrement, les effets d'un brassage de la population à l'occasion du nouvel an. Les fêtes organisées, même en petit comité, vont-elles donner un coup de fouet à l'épidémie? On le saura dans les jours à venir. Et puis deuxième crainte, c'est la diffusion du virus mutant apparu au Royaume-Uni. Plus contagieux, moins détectable, ce mutant laisse pour le moment l'exécutif dans le brouillard. C'est la raison pour laquelle Jean Castex a exprimé hier son souhait de ne pas reconfiner, tout en n'excluant pas cette hypothèse. En tout dernier recours, a-t-il précisé. Un nouveau conseil de défense se tiendra demain à l'Élysée pour examiner la situation et d'éventuelles annonces pourraient intervenir à l'occasion de la conférence de presse hebdomadaire au ministère de la Santé, jeudi, en début de soirée.
Et en attendant, le gouvernement présente cet après-midi à l'Assemblée nationale son plan jeunesse. Un débat sans vote à la demande du groupe La République En Marche. Les jeunes, priorité affichée de l'exécutif, car ils sont les premières victimes de la crise sanitaire, sociale et économique. Nouveau signe de ce malaise grandissant, la tentative de suicide d'un étudiant à Lyon. Il s'est défenestré ce week-end et se trouve toujours entre la vie et la mort. Les cours à distance fragilisent nos étudiants, explique le doyen de la faculté de droit. Le président de l'université de Lyon 3 appelle même à un plan d'urgence pour la santé mentale des étudiants. Et à Mulhouse, un collectif de jeunes adresse une lettre ouverte à l'exécutif qui témoigne d'un vrai désespoir, Sonia Princé.
C'est toute une génération que vous sacrifiez et l'avenir du pays que vous mettez en danger. C'est par ces mots que commence la lettre ouverte publiée par le collectif des derniers déconfinés, créé par une quinzaine d'étudiants la semaine dernière quand ils ont vu que le gouvernement n'évoquait pas la question des universités. Parmi eux, Chola Bamgoz est étudiante en troisième année de sciences politiques à l'université de Haute-Alsace.
C'est littéralement le sentiment qu'on a d'être les derniers déconfinés. Les lieux de culte ont pu rouvrir, mais pas les lieux de culture, pas les lieux de connaissance. L'institution universitaire n'est même pas évoquée lors de la dernière conférence de presse du gouvernement, alors même que le gouvernement se dit rechercher une date qui permettrait de rouvrir les montées mécaniques. Donc forcément, on ne comprend pas.
Certains d'entre nous ont pensé au suicide, dit cette lettre, qui dénonce l'indifférence du gouvernement malgré les signaux de détresse.
Pour certains, la soumission au confinement ou au couvre-feu se fait dans des logements de 9 mètres carrés. Certains payent leur loyer à bout de bras tous les mois parce qu'ils ont perdu leur emploi. Ils payent un loyer alors même que le logement n'est pas forcément nécessaire puisqu'on ne sait pas quand on pourra reprendre les cours en présentiel. En fait, on leur a enlevé la bouée de sauvetage qu'est l'université en tant que lieu de sociabilité, tout simplement.
Ces étudiants demandent au gouvernement de permettre aux universités de reprendre vie et de sauver ce qu'il reste à sauver.
Retenir les leçons de la pandémie pour les prochaines crises à venir. L'OCDE publie aujourd'hui un rapport sur les conséquences de la crise sanitaire sur la recherche et souligne que si le Covid-19 a permis une mobilisation massive des chercheurs pour trouver notamment une solution vaccinale en un temps record, pour autant, cette crise a également mis en lumière certaines carences. Bonjour Arnaud Rozac.
Bonjour.
Selon l'OCDE, il faut amorcer une transition vers des sociétés équitables.
Oui, et cela passe tout d'abord par le renforcement de la coopération internationale. Aucun pays ne peut vaincre à lui seul le Covid-19, affirme l'OCDE. Alors, pour être plus efficace, il faut collaborer, comme pendant cette crise sanitaire. Entre janvier et novembre 2020, près de 75 000 publications scientifiques sur le nouveau coronavirus ont vu le jour, et trois quarts d'entre elles étaient en libre accès, gratuites. C'est ce qui a permis un échange d'informations très rapide au sein de la communauté scientifique pour trouver un vaccin. Pour l'OCDE, il faut continuer d'appliquer ce schéma pour endiguer d'autres phénomènes comme celui du réchauffement climatique.
Et dans le même temps, Arnaud, l'OCDE conseille au gouvernement de mieux cibler leurs investissements.
Oui, les aides directes dans les entreprises, comme les subventions ou les contrats, ont baissé en lieu et place des aides fiscales. En 2017, au sein des pays membres de l'OCDE, le soutien fiscal représentait 55% des investissements publics. Si cela permet à certaines entreprises d'innover, les résultats ne bénéficient pas forcément au grand public. Il faut davantage se concentrer sur des recherches à long terme, au risque élevé certes, mais qui visent le bien commun, comme dans le secteur de la santé par exemple. Un moyen peut-être de ne pas décourager les chercheurs qui se plaignent de la précarisation de leur métier. Les jeunes doctorants enchaînent les contrats courts sans avoir l'assurance d'un poste universitaire à la clé. L'organisation propose alors une réforme de la formation doctorale et post-doctorale pour proposer de nouvelles perspectives de carrière plus attractives. Dans le rapport de l'OCDE, sur 2600 chercheurs interrogés, plus de la moitié prévoit une baisse de la sécurité de l'emploi à cause de la crise du Covid.
Une situation précaire chez les jeunes chercheurs, c'est ce que confirme Martin Mourigal, professeur de physique à Georgia Tech à Atlanta, aux États-Unis, l'une des plus grandes universités du pays.
Le marché de l'emploi, il s'est fortement contracté, donc il y a beaucoup moins d'opportunités pour les jeunes chercheurs. D'autre part, il y a un aspect qui m'inquiète, moi, personnellement. Je peux avoir que la moitié des gens dans mon laboratoire à un moment donné, et nous devons respecter, évidemment, les consignes de distance. Comment former les gens aux méthodes expérimentales quand on ne peut pas les voir en personne? Alors d'un autre point de vue, deux de mes collègues ici à l'école de biologie, donc Joshua Weitz et Greg Gibson, donc eux, ils ont mis en place un système de tests salivaires très tôt pendant la crise, avec le support financier de l'université, de Georgia Tech. Ces tests ont été mis à la disposition gratuitement pour les personnels, les professeurs, les étudiants de l'université. Ce système a permis d'éviter deux départs de feu, d'une certaine manière, où par exemple à la rentrée scolaire en août, de nombreux étudiants sont venus avec le Covid et ils ont été détectés très rapidement.
Savoir se réinventer en temps de pandémie, c'est aussi le défi que tente de relever Cécile Tardy, directrice adjointe de la Contemporaine, bibliothèque et centre d'archives situé à Nanterre, spécialisée donc dans l'histoire contemporaine. Face aux règles sanitaires, Cécile Tardy et ses équipes ont adapté leur offre pour permettre aux chercheurs d'avoir accès aux ressources.
On a essayé de voir comment on pouvait maintenir le contact avec les lecteurs. Donc on a beaucoup valorisé tout ce qui était en ligne, en donnant accès à certaines bases qui normalement ne sont consultables que sur place, en ouvrant un accès un petit peu extraordinaire. Et puis on a mis en place aussi un service de reproduction à la demande beaucoup plus développé qu'en temps normal. C'est-à-dire que non seulement on a plus fait des recherches pour les lecteurs, pour les chercheurs, mais on leur reproduisait, on leur numérisait des documents qu'en temps normal on ne numérise pas pour eux, on leur laisse reproduire parfois avec leur appareil photo personnel pour avoir des clichés de travail. On espère qu'on va pouvoir retrouver une activité et que les gens reviendront dans les bibliothèques et les centres d'archives par la suite. De toute façon, tout ne peut pas être dématérialisé non plus et tout ne sera pas disponible en ligne.
Cécile Tardy, directrice adjointe de la Contemporaine, elle répondait à Arnaud Rozac.
7h09 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Aux États-Unis, les démocrates ont fait un nouveau pas vers une deuxième procédure de destitution visant Donald Trump.
Les démocrates ont rédigé l'acte d'accusation qui doit être voté cette semaine à la Chambre des représentants. D'après ce document, le président Trump a incité à la violence mercredi dernier en appelant ses partisans à marcher sur le Capitole. À une semaine maintenant de l'investiture de Joe Biden, Washington est quasiment en état de siège, le FBI en état d'alerte, le bureau fédéral Bruxelles craint de nouvelles manifestations et des actions violentes autour du 20 janvier. Les précisions à Washington de Grégory Phillips.
Dès le lendemain de l'assaut lancé contre le Capitole, les autorités avaient repéré sur les réseaux sociaux de nouveaux appels à manifester avant et pendant l'investiture de Joe Biden, avec même l'appel à des rassemblements armés. Le FBI donne du crédit à ces informations, puisque dans une note interne, le bureau fédéral prévient du risque de rassemblement avec des gens en armes à Washington, mais aussi dans chacun des 50 États américains au pied des Capitoles, les parlements locaux, et ce, dès samedi prochain. Le FBI évoque aussi des menaces contre la sécurité de Biden et de sa future vice-présidente, Kamala Harris. Les autorités américaines sont donc sur le qui-vive. À Washington, 15 000 soldats de la garde nationale seront déployés entre maintenant et le 20 janvier. La maire de la ville, Muriel Bowser, demande aux Américains de ne pas rejoindre la capitale fédérale pour ces cérémonies et d'y participer de manière virtuelle, alors qu'on apprenait hier soir la démission du ministre de la Sécurité intérieure, Chad Wolf, qui lui aussi claque la porte de l'administration Trump avec un pays en pleine ébullition.
Et Twitter annonce avoir supprimé 70 000 comptes affiliés au QAnon, cette mouvance conspirationniste pro-Trump qui était impliquée dans les récentes émeutes de Washington. C'est la dernière intervention en date après un durcissement de ton général sur les géants du numérique. Durcissement lié à la crainte de nouvelles violences, donc organisées en ligne via leurs services. Amazon avait déjà expulsé par l'heure de ses serveurs. Le géant des technologies reproche au réseau social prisé, là encore, des adeptes de QAnon et d'autres partisans de Donald Trump d'avoir laissé proliférer des messages problématiques après l'assaut sur le Capitole. Il avait passé sa vie à aller et venir entre deux cultures et deux langues, la française et la grecque. Le romancier et journaliste Vassilis Alexakis est mort à l'âge de 77 ans. Lui qui avait cette rare caractéristique de se traduire lui-même avait reçu le prix Médicis en 95 pour La langue maternelle, le prix de la langue française pour l'ensemble de son œuvre, une vingtaine de romans doux amers sur l'altérité, l'exil, les religions, l'identité européenne ou encore le destin des langues entre biographie et histoire. Quelques mots du temps de ce mardi 12 janvier marqué par de la pluie à l'ouest et de la neige à l'est ainsi que dans le massif central. Au meilleur de la journée, il fera 4 degrés à Strasbourg, 5 à Grenoble, 6 degrés à Limoges, 9 à Lille, à Marseille et à Dax, 10 degrés à Paris, 11 degrés à Nantes, Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutu. Dans quelques minutes, le reportage de la rédaction nous emmènera dans un éco-quartier presque centenaire à Châtenay-Malabry, en région parisienne. Et dans quelques secondes, nous allons évoquer l'affaire Duhamel. Pourquoi plonge-t-elle Sciences Po dans la tourmente ?